Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comme le disait Kafka, l'écriture est l'âge qui brise la couche de glace qui recouvre la mer gelée en nous. Par quel mystère l'écriture de soi permet-elle d'accéder au plus profond de soi, cette écriture intime qui nous permet de mettre en lumière les trésors de notre vie intérieure, la base de notre créativité, de notre singularité et de notre individualité, une vie intérieure menacée par notre usage immodéré du numérique, par notre hyperconsumérisme, par l'accélération de nos rythmes de vie, par notre inattention. Ce matin, des conseils pour reconquérir le temps d'écrire sur soi, de mettre sa vie en mots, une écriture accessible à tous, quel que soit ses moyens ou ses capacités littéraires. Il suffit d'un carnet et d'un stylo pour capter les pulsations de notre psyché et de nos émotions. Nous verrons également quels sont les bienfaits avérés de l'écriture intime quand on souffre d'anxiété, de dépression ou de stress post-traumatique. Par quel mécanisme l'écriture est-elle capable de soigner notre esprit? Comment la recherche scientifique explique ses bienfaits sur notre santé mentale? À la question « Pourquoi écrivez-vous ?», le poète Saint John Perse répondait « Pour mieux vivre ». Et vous, pourquoi écrivez-vous un journal intime, des poèmes ou votre autobiographie? Qu'avez-vous découvert sur vous? 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale. Bonjour Marie-Laure Zonshine.
Bonjour Ali.
Chef de service à Femme Actuelle, dans votre panier de questions pertinentes.
Alors plutôt cahier à spirale façon William Scheller ou Christilla, je le vois là devant moi, carnet Moleskine. En tout cas, j'espère qu'on va faire le test du chamallow et parler de l'érotisme d'une pince à linge.
Oh là là, quel sens magnifique du teasing, ma chère Marie-Laure. Bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de vos choses presque vues?
Eh bien écoutez, ce matin nous allons parler de James Ellroy et point virgule.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Lorsque j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas trop ce que je faisais. Pendant plusieurs années, j'ai pris des notes comme cela, sans trop vraiment savoir ce que je poursuivais, ce que je cherchais. Et puis c'est très longtemps après plusieurs années, que j'ai compris que je me servais de l'écriture pour me connaître profondément, et en fait pour me transformer. Pour partir à la rencontre de celui que j'étais, mais que je ne connaissais pas. Donc j'ai eu à me transformer pour devenir moi-même.
Le poète Charles Julliez chez François Bunel sur France Inter en 2012. Bonjour Néla Chidiac.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en psychopathologie, vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste du trauma et de l'écriture thérapeutique. Vous avez fondé les ateliers d'écriture thérapeutique au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Et vous venez de publier un livre passionnant chez Odile Jacob, Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots. Bonjour Flavia Mazzolin-Salvi.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste en psychologie et conseillère éditoriale et vous publiez au courrier du livre Ma vie en mots. En deux mots, comment est organisé votre livre qui est également un carnet d'écriture, hein?
Oui, c'est un carnet compagnon, donc avec une petite introduction qui dévoile, déploie tous les bénéfices, les secrets de l'écriture de soi et qui présente aussi la source d'inspiration qui est le livre de la poétesse et dame de cour japonaise Seishō Nagon. Et ensuite, il y a trois chapitres et des invitations
à écrire.
voilà, très anglais, pointu.
Bonjour Christina Pelédouel.
Bonjour Ali Rébéi.
Journaliste à Psychologie Magazine et autrice, il y a quelques années, de ces livres qui nous font du bien chez Marabout. Alors comment avez-vous découvert que l'écriture intime possédait des vertus incroyables? Vous, Flavia Mazzolin-Salvi, c'est en lisant, vous l'avez dit, les notes de chevet de Seishō Nagon. Dans ce livre, Seishō Nagon décrit la vie à la cour, mais ce qui vous a passionné, c'est la centaine de paragraphes qui commencent par choses. Choses ravissantes, choses splendides, choses qui ne s'accordent pas. Par exemple, choses ravissantes, un visage d'enfant dessiné sur un melon. Choses splendides, les veines du bois dans une statue de Bouddha.
Oui, ce sont toutes ces invitations à mettre en mots des ressentis, des émotions, et en mettre en mots de manière sensible et surtout très personnelle. Et c'est vrai que cette rencontre, je dois dire, qui s'inscrit dans 20 ans aussi à psychologie de tests, de différentes méthodes d'exercice, de psychologie, de développement personnel, entre autres sur l'écriture de soi, m'a invité, m'a incité à moi-même répondre aux invitations de Seishonagon. Et j'ai été vraiment bluffée, c'est le mot, puisque moi je pars toujours de l'expérience. J'ai été bluffée par le résultat, à plusieurs niveaux. Un autoportrait étonnant, je ne m'attendais pas à dire certaines choses. Et puis aussi à aller dans d'autres voies plus originales, inexplorées, de la connaissance de soi, qui est souvent limitée et en tout cas très attendu. On a plein d'idées toutes faites sur soi et j'ai été bluffée et j'ai eu envie du coup d'étendre cette centaine de propositions à 300 propositions et à proposer cette expérience.
Et cet exercice vous a permis de faire remonter certaines choses à la surface et d'explorer votre vie intérieure, hein ?
Oui, parce que en dehors de la méditation et des moments un peu de rêverie, on a très peu l'occasion dans notre culture de plonger en soi, de s'intéresser à ce qu'on ressent en profondeur, à faire le point aussi sur sa vie, ce qui nous convient, ce qui nous convient moins bien, à nos relations. Et cette espèce de voyage intérieur qui est, je le précise, le contraire du nombrilisme, nous permet à la fois de faire le point sur notre vie, de nous affirmer plus tranquillement et de prendre notre place au milieu des autres dès lors qu'on se connaît mieux et on sait ce qui nous va, et du coup de pouvoir tisser des relations plus simples, plus fluides avec les autres. C'est le contraire de l'exhibition du moi et de l'égocentrisme.
Néla Chédiac, écrire c'est un acte qui permet de renouer avec notre intimité, avec notre vie intérieure ?
Absolument. Comme le disait Flavia dans le livre est merveilleux et que je propose aussi en atelier d'écriture, il est à la fois beau dans la forme que dans le fond. C'est avoir un voyage intérieur, si on devait résumer ça, c'est un voyage intérieur.
Et notre vie intérieure est constamment mise à l'épreuve par l'accélération de nos rythmes de vie, par notre usage des écrans, par notre hyperconsumérisme.
Absolument. Je dirais aussi, à part le voyage intérieur, on a très peu de temps, en fait. Il faut toujours aller vite. On n'a malheureusement pas assez de temps pour penser. Et l'écriture, ce moment qu'on prend pour écrire, même si c'est un voyage intérieur au niveau des souvenirs et des réminiscences, c'est aussi un moyen de penser.
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, c'est un moyen de penser. C'est un moyen de suspendre, Naïla vient de le dire, de suspendre le temps utile, et on passe dans le temps inutile, et je mets des guillemets, inutile, mais ô combien précieux et indispensable, inutile et indispensable, pour pouvoir en effet arriver à porter un regard sur soi, et surtout une écoute, ce que dit Flavia en disant qu'elle a découvert des choses sur elle-même, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est souvent surpris de ce qu'on écrit, on est surpris de ce qui remonte à la surface, et je crois que tous ceux qui ont tenu à un moment ou à un autre un journal, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, et d'ailleurs même parfois quand on relit ce qu'on a écrit auparavant, on est surpris sur soi-même et surpris sur l'évolution qui s'est faite dans le temps. On découvre, alors « je » est un autre, on découvre quelqu'un qu'on ne connaissait pas forcément si bien que ça. Et c'est ce qui fait tout le prix et tout le délice de l'écriture pour soi.
Néla Chédiac.
René Char résume très bien ce que me disent les patients depuis 32 ans. Il disait la chose suivante, les mots savent de nous ce que nous ne savons pas encore.
C'est ça.
Et je pense que ça résume très bien ce ressenti après avoir fait tous les exercices d'écriture et cette écriture. Et quand on se relit, on se dit « Ah !»
Flavia Mazelin, écrire sur soi montre le besoin de porter à la lumière ce qui est dans l'ombre. Je vous cite.
Oui, pas forcément en termes de révélation de secrets ou de choses inavouables. Ça peut bien sûr être aussi le cas. Mais... ces parties de soi plus fines, plus qui sont inexplorées et qui sont aussi des ressources en sommeil. C'est-à-dire que on le voit bien dans la vie professionnelle, on est sollicité pour utiliser toujours les mêmes outils, les mêmes mécanismes intellectuels ou manuels, hein, tout dépend de ce qu'on fait. Et finalement, dans nos relations, l'esprit humain cherchant le confort, on est aussi souvent dans des formes d'automatisme et de représentation de soi assez limitées et pratiquement définies une fois pour toutes. Et prendre le temps de cette introspection, de répondre à des choses aussi simples, de que qu'est-ce qui m'irrite au travail, ou bien quel est le lieu dans lequel je me sens renaître, ou des choses que j'aimerais changer en moi. Ça nous permet de sortir de l'autoroute des conditionnements et des automatismes personnels et relationnels, et puis aussi de décoller, parce que chaque fois qu'on on est installé dans ce qu'on pense être soi, et on laisse aussi les autres nous étiqueter, nous définir. Et aller explorer ces zones d'ombre, c'est révéler toutes les facettes, toutes les richesses intérieures que l'on a, et donc, j'allais dire, expanser son identité et vraiment s'en saisir.
Christine Appel-Edouard.
Oui, et puis il y a une dimension très importante dont Flavia et Naïla parlent toutes les deux, qui est purement et simplement la dimension de l'écriture, c'est-à-dire que ce qu'on écrit n'est pas ce qu'on dit, c'est autre chose qui se produit. Il y a un phénomène particulier qui intervient à ce moment-là. D'ailleurs, Pascal Quignard, j'ai noté une phrase que je trouve magnifique. Il dit « Les mots que l'on prononce ne sont pas les mots qu'on écrit ». Autre syntaxe, autre monde. Donc l'écriture, littéralement, a un pouvoir que n'a pas la parole, même la parole que l'on peut prononcer dans le cabinet d'un thérapeute, ce n'est pas la même chose que ce que l'on écrit.
Naïla Chidiac, qu'est-ce qui revient le plus souvent sur les bienfaits de l'écriture de soi quand vous interrogez des écrivains ou vos patients d'ateliers d'écriture?
C'est le cadre, en fait, c'est le cadre que peut vous apporter cette séance d'écriture, qui va contenir en fait toutes ces émotions qui sont parfois comme un tsunami débordante, parce que dans tout ce qui est décrit, finalement, de l'invisible au visible, il y a aussi cette notion de mettre de l'ordre dans le chaos. Et c'est pouvoir ranger et nommer ce chaos, prendre une distance et à partir de là pouvoir élaborer.
J'ai noté dans votre livre que cela permettait, hein, cette écriture de soi, de méditer, d'apaiser, de taire la douleur sans l'étouffer, de créer une boussole, de combler le vide ou de calmer le désespoir de manière élaborée et non compulsive, et tout simplement pour vivre.
Exactement. C'est tout à fait ça. Et vous étiez en train de citer Pascal Quignard, Christila. Il a aussi dit « La meilleure façon de penser, c'est d'écrire ». Donc en fait, une fois que vous vous mettez à écrire, je parlais de méditation à cause du cadre, si vous le faites de manière régulière comme une méditation, c'est très étonnant de voir que ce qui nous angoissait terriblement, au fur et à mesure du temps, cette distanciation, cette mise à distance, permet de calmer certaines angoisses, effectivement.
Que dire à ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec l'écriture pour de multiples raisons? Vous martelez que l'écriture de soi, eh bien, c'est accessible à tous.
Absolument. Peut-être essayer. D'abord, il ne faut pas forcer tout le monde, absolument pas. Mais peut-être essayer quelque chose qui n'est pas nécessairement l'écriture de soi par le biais des exercices que je propose. Parce que certains sont encore collés à l'image de « il faut bien faire ». Et ce que j'explique, c'est qu'on n'est pas à l'école. En tout cas, je ne suis pas prof d'école. Je suis prof d'université, mais pas en écriture. Et la qualité ne compte pas. La quantité ne compte pas. C'est très étonnant.
Le style ne compte pas.
Le style ne compte pas. Ce qui compte, c'est le temps. La seule contrainte est une contrainte temporelle.
Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, justement, le temps, vous l'évoquez, c'est vraiment la règle la plus importante à respecter, faisant fi des règles de syntaxe, de la peur d'y aller, de ne pas savoir même quoi écrire. Je disais tout à l'heure, j'espère que vous allez nous l'expliquer, le test du chamallow, moi, qui m'a absolument passionnée et régalée. J'avoue que j'ai pas essayé, mais je compte bien le faire. En quoi ce moment sans parasite est indispensable, justement, à la pensée, à la mise en place, je dirais, de la réflexion, de poser ses idées? On a besoin, vous dites, il faut respecter ces 30 minutes.
Absolument. Alors, je tiens à préciser, ce sont des ateliers d'écriture à visée thérapeutique. Bien sûr, quand on veut écrire pour créer, le temps n'existe pas, il est élastique. Dans ces ateliers-là, la contrainte est effectivement une contrainte temporelle. Pour voir comment le saisissement de la pensée va se saisir de la consigne pour pouvoir l'élaborer. Donc, par exemple, votre chamallow qui a l'air de vous donner envie, vous posez un chamallow. On est nombreux, là, on aurait pu faire l'atelier. On pose un chamallow et je demande, là vous avez 30 minutes pour choisir le sens que vous voulez. Parce que le chamallow a 5 sens, comme nous-mêmes, il a un goût, il y a le gustatif, il y a l'auditif parce qu'il fait un petit bruit bizarre, il fait quinch quinch, il a une odeur, il y a la texture. Et je demande à chacun d'entre vous de saisir le sens qu'il veut par rapport à ce chamallow et de le décliner en ou haïku ou en quatrain. qui ne peut pas faire un haïku à un quatrain en 30 minutes, c'est faisable. Si après la personne, il lui reste 25 minutes parce qu'elle a fait ça en 5 minutes, elle veut écrire autre chose, bien évidemment, libre à elle. Moi, je sais que ma seule contrainte avec les patients, c'est au bout des 30 minutes, voilà, c'est terminé, on va lire et on va voir ce que chacun a écrit.
Alors Lucie nous demande si l'écriture de soi n'est pas un acte hyper narcissique, cet hyper narcissisme qui nous coupe des autres. Vous êtes d'accord avec ça, Flavia Mazzolin-Salvi? Au contraire, pour vous, hein, et je vous ai bien lu, hein, l'écriture intime ne nous coupe pas des autres, mais nous relie aux autres. Expliquez-nous pourquoi.
Alors c'est tout à fait ça. C'est d'abord, il n'y a pas à choisir entre plonger en soi et se relier aux autres. On peut tout à fait faire les deux. Et je dirais même que plonger en soi pour mieux se connaître, mieux se ressentir, nous permet de mieux nous relier aux autres. C'est-à-dire que plus je me sens faire un avec moi-même, plus je suis proche de mon ressenti, de mes émotions, de mes sensations, mieux je sais choisir, plus je sais ce qui me convient ou pas. Bref, plus je suis verticale, alignée, comme on dit, centrée, plus je vais être tranquille dans la relation avec les autres. L'autre ne me menace pas. Et c'est là une connaissance de soi qui n'est pas une connaissance de soi exhaustive ou encyclopédique. On sait depuis Freud que le moi est insaisissable, feuilleté et tout à fait volatile. Mais en tout cas, plus on est proche de ses émotions, de ses sensations, de ses pensées, plus l'autre est vécu comme un enrichisseur possible de soi et non pas ou comme quelqu'un qui va ou nous négliger ou nous dominer ou avec lequel on va rentrer en compétition pour s'affirmer. Au contraire, plonger en soi, l'écriture de soi, permet un renforcement identitaire, quelque chose qui fait qu'on se sent tranquille au milieu des autres.
Et on se sent proche aussi quand on lit les journaux de Jules Renard, de Kafka, de Virginia Woolf. On se sent proche d'eux, surtout quand ils ne se montrent pas sous leur meilleur jour, hein, dans leurs journaux intimes, Flavia Mazzolin-Salvi.
Oui, parce que c'est ça aussi qui est en jeu, c'est une connaissance libérée, sans censure de soi-même. C'est vraiment s'explorer un peu sous toutes ses facettes et dire vraiment, on voit bien quand on se prête à l'exercice de ces des propositions que bien on a des lignes de force, des lignes de faiblesse, on a des zones un peu de honte, des zones de fragilité, et c'est tout ça, notre humanité, qui nous permet de rencontrer les zones de fragilité, d'humanité de l'autre. Et c'est pour ça, pour moi, que c'est un, comment dire, ça fait tomber les masques du jeu social. Ça permet l'authenticité relationnelle.
Christy Lapelle-Edouane.
Oui, ça permet en effet de revenir vers soi, permet de découvrir qu'en fin de compte, on n'est pas tout seul. C'est bizarre de dire ça, mais je pense que c'est vraiment la réalité. En ce qui concerne les journaux des écrivains, alors il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a des journaux qui sont écrits pour la postérité, hein, les Goncourt par exemple, c'est vraiment typiquement le cas. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus spontanés, mais je voudrais insister sur une notion qui est celle de liberté, mais vous allez peut-être en parler un peu plus tard, mais la manière dont l'écriture de soi permet de s'ouvrir à une liberté personnelle, il ne s'agit pas d'une liberté sociale, il s'agit vraiment d'une liberté personnelle, et en particulier je pense à des écrivains, des femmes, pour lesquelles le journal ou l'écriture personnelle a permis d'ouvrir une possibilité d'exprimer des choses qui peut-être étaient interdites ou fermées complètement, voilà. Alors Jane Austen par exemple ou Virginia Woolf ont écrit pour être libre.
Et j'espère qu'on pourra lire un jour le journal intime d'Éric Fibiau.
On y travaille.
De se voir, mais il y a peu de chance. Cela dit, c'est, pardon de rebondir là-dessus, comme j'ai écrit des récits qui sont un peu personnels, notamment un livre qui s'appelle Clint et moi, et où je raconte la relation avec Clint, mais c'est une relation assez journalistique avec Clint Eastwood et tout ça, et je remonte à l'image d'une photo de mon père qui s'était déguisé un jour en Clint Eastwood, et sur la fin du bouquin, j'étais en train d'écrire la dernière rencontre que j'avais faite avec Eastwood, c'était la 7e ou la 8e, et je je me disais, tiens, si ça se trouve, c'est la dernière, parce qu'il est un peu âgé, j'étais allé le voir là-bas, etc. Puis peut-être qu'il fera plus de films. Donc ça clôturait une certaine relation. Et tout d'un coup, est remonté à la surface le décès de mon père, quelques mois avant. Et tout d'un coup, tout s'est lié, tout s'est éclairé entre la première image de mon père déguisé en Clint Eastwood et le décès de mon père et le fait de voir peut-être Eastwood une dernière fois. Et je m'y attendais pas du tout, en fait, de cette... Donc je l'ai écrite, et c'était à la fois émouvant, à la fois ça m'a éclairé, ça m'a appris plein de choses. C'était assez étonnant, ce surgissement comme ça de la mémoire.
Néla Chidiac.
Oui, d'ailleurs Shakespeare disait la mémoire est la sentinelle de l'esprit, et avec l'écriture on a accès direct à cette mémoire sans même s'en apercevoir. Par les cinq sens, par exemple, que j'utilise beaucoup dans les exercices pour le traumatisme, ou comme ce que vous l'avez fait à partir d'une photo, donc un élément extérieur qui va automatiquement aller saisir des choses de l'intérieur. Et c'est ce mouvement qui est fabuleux.
Et vous, racontez-nous les bienfaits de l'écriture intime dans votre vie, 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. En attendant, on écoute Nat King Cole qui interprète Love à 10h27.
Toi qui n'as peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur allumé. Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout peur, avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur allumé. Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je c'est que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà, tu peux avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
La version française de Love par Nat King Cole.
Résolution numéro 1. Vais évidemment perdre 10 kilos.
Grand bien vous fasse.
Numéro 2. Cesserai de nouer lien amoureux avec tout individu entrant dans les catégories suivantes. Alcoolique, bourreau de travail, phobique de l'engagement, voyeur, mégalomane, enfoiré affectif, pervers.
Sur France Inter.
C'est vous ça, Marie-Laure Zonshine?
Ah,
non, c'est Bridget Jones. Et ce matin, on s'intéresse aux bienfaits de l'écriture intime. N'hésitez pas à nous dire pourquoi écrire vous fait du bien. 01 45 24 7000. Question très très pratique de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Et oui, alors écrire. Écrire sous-entend la main, le stylo, le choix du cahier, le choix du papier, le choix du format, et donc surtout pas le clavier. Pourquoi ce pouvoir de la main, finalement, dans le processus créatif, est-il si important ?
J'adore cette question, merci beaucoup, parce que la main...
Néla Chidiac, psychologue clinicienne.
Pardon, Ali. La main est le prolongement de la pensée, en fait. On est corps et âme, et la main, c'est ce prolongement-là. Et il y a ce mouvement, le mouvement est très nécessaire, et c'est dans cet acte-là qu'on s'aperçoit qu'il y a comme un sismographe de l'âme, et je ne parle pas de graphologie, mais c'est en écrivant qu'on va rayer, et la rature parfois va nous révéler quelque chose, alors que quand on est sur le clavier, on efface et on ne voit plus ce qui reste, et le mouvement n'est pas le même. On gratte avec la main, c'est l'origine du mot écrire, l'étymologie, c'est inciser, gratter, donc c'est un travail à la main.
Et des études scientifiques montrent que le cerveau s'engage différemment quand nous écrivons quelque chose à la main, par opposition à la saisie sur un clavier ou en touchant un écran. Christine Appel-Edouel, journaliste à Psychologie Magazine.
Absolument, des études qui ont été menées en neurologie qui tendent à prouver ça, enfin qui ne tendent pas d'ailleurs, qui le prouvent. Et autre point très important, ce qui concerne les enfants, il est indispensable que les enfants écrivent à la main et n'écrivent pas sur un clavier, justement pour les mêmes raisons, pas seulement pour la maîtrise de l'écriture elle-même, mais vraiment pour ce lien entre le cerveau, les neurones, et la main qui écrit.
Écoutons Noélie, qui a écrit 24 journaux intimes depuis l'enfance.
Le premier, c'est celui-ci, avec un gros cœur pour commencer, ne pas lire, attention.
Noélie dit Césarée a 27 ans et 24 journaux intimes. Autant dire qu'elle y a mis toute son existence depuis qu'elle sait écrire. Premier amour d'enfant.
J'aime Romain. Il est en CE2 et il a 9 ans. Il est beau, fort, grand et sympa. Je crois qu'il m'aime. Tant mieux.
Première révolte d'adolescente.
Là, j'avais venu de changer de couleur de cheveux. J'avais les cheveux rouges.
Waouh.
Je suis officiellement déclarée comme la pomme de la famille.
Et aujourd'hui, les débuts dans une carrière d'ingénieur.
Hier, j'ai eu une grosse journée. Réunion le matin avec des partenaires scientifiques et TP à l'atelier l'après-midi avec les étudiants. C'est assez intéressant.
Ses écrits témoignent de ses bonheurs, de ses envies, de ses ambitions. C'est la mémoire intacte de ce qu'elle a été et c'est exactement ce qu'elle recherche.
On se rappelle de tous les événements de la vie. Je veux dire, qui se rappelle de ce qui s'est passé quand on avait 8 ans ou 10 ans? Eh ben moi, je le sais, je m'en rappelle. C'est consigné là quelque part.
Extrait du JT de France 2 en octobre 2017. Votre regard, Flavia Mazzolin-Salvi, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée en psychologie. C'est assez fascinant, hein, ce travail, ce long travail de Noélie depuis l'enfance. Quel est votre regard?
Je trouve ça à la fois émouvant et formidable d'avoir une bibliothèque de ces tranches de vie à notre époque, surtout où le sentiment d'être interchangeable, notamment au travail, d'avoir dans ces vies accélérées, on ne se sent pas vivre, on ne se sent pas être, et le récit de soi, l'écriture de soi, que la tenue de journal intime, nous donne le sentiment, je dirais même le décuple, de vivre sa vie. C'est-à-dire, il nous dit « je suis quelqu'un, je vis des choses, et ce que je vis mérite, vaut la peine d'être inscrit ». Et c'est ce qu'on appelle du narcissisme positif, du bon narcissisme, hein, pas celui qui consiste à tout ramener à soi, à se vanter, à s'exhiber, mais au contraire, à se densifier de l'intérieur, à inscrire sa vie dans quelque chose d'unique, hein, on prend conscience de sa singularité, de tout ce qui nous arrive, de bien, de mal, on est quelqu'un. C'est pas la peine d'être un people, une célébrité, pour avoir une vie qui mérite d'être racontée, d'être partagée, d'être inscrite dans le temps. Et c'est très soutenant sur un plan personnel.
Flavia Mazzolin-Salvi, dans votre livre « Ma vie en mots », vous établissez un petit inventaire des différents bienfaits de l'écriture introspective.
Oui, c'est vrai que ces bienfaits sont illimités, j'ai dû me restreindre. Hein, elle crée des pauses, elle régule les émotions, parce qu'on sait bien que identifier, nommer, puis écrire ce qu'on ressent permet de, par ce phénomène d'externalisation, permet de se détacher de l'émotion trop envahissante, trop perturbatrice, et donc d'en affaiblir son impact. Ça favorise aussi la clarté mentale, hein, dès qu'on a tendance à ruminer, qu'on a le mental en surchauffe, eh bien, écrire permet de refroidir la machine et de voir plus clairement ce qui est en jeu. Christ, il a parlé tout à l'heure de la liberté. Effectivement, elle offre un précieux jardin secret. voilà, elle nous rend quand même plus lucides sur nous, sur nos choix, et elle permet aussi, et c'est vraiment pas le moindre de ses bénéfices, de corriger ou de modifier dans notre vie ce qui peut l'être, ce qu'on a envie de faire évoluer, parce qu'on est on est sur un tapis roulant d'ordinaire qui va très vite, et là se dire non mais en fait ça ne me convient pas, cette relation, cette situation, je fais le point, qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est une manière de se réapproprier sa vie et d'être plus actif. Et comme l'a dit Naïla Chidiac tout à l'heure, pour écrire, il faut penser. Et on a très peu, encore une fois, l'occasion de penser à sa vie, à ce qu'on veut faire de sa vie.
Et puis n'oublions pas que l'écriture introspective procure de la joie. C'est une source de plaisir, Naïla Chidiac, il faut le dire quand même.
Oui, enfin on arrive au plaisir que procure l'écriture, pardonnez-moi, et d'ailleurs à la lecture des journaux intimes des écrivains, des peintres aussi, des sculpteurs, on retrouve surtout la souffrance liée à la création. On trouve rarement la joie et la bonne humeur, sauf d'ailleurs dans certains passages de Virginia Woolf où elle dit « Je ne suis heureuse que quand j'écris ». Alors oui, l'écriture procure un plaisir immense, surtout lorsque c'est aussi avec des exercices d'écriture, parce que là vous allez explorer des facettes que vous ne connaissez pas. Et puis si vous permettez, à propos de ce narcissisme qui revient beaucoup, écrire n'a rien de narcissique. Si on remonte à l'écriture personnelle qu'on a décelée en premier, c'est chez Épictète au 1er ou 2e siècle, pardonnez-moi, je confonds, c'était pour lui un exercice de rigueur que d'écrire tous les jours pour pouvoir sortir et affronter le réel. Donc il y a quelque chose de nécessaire dans cette écriture.
Bonjour Betty.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors, vous écrivez depuis 2000, c'est ça?
C'est ça, oui. J'ai commencé à écrire. Mes enfants avaient 5 ans et l'autre 3 ans. Et donc, j'avais une assez forte angoisse un petit peu de mort, tout simplement, en me disant si je pars, si je disparais, mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que mes enfants sauront de leur enfance? Et ça, c'était compliqué pour moi de me dire si jamais je suis plus là un jour, eh bien ils sauront pas comment ils ont été, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, quelles ont été leurs premières aventures, etc. Et donc j'ai écrit, j'ai commencé à écrire comme ça sur l'un, sur l'autre, mais en me donnant, j'avais quand même deux règles, et ça j'ai essayé vraiment de m'y tenir, de ne jamais parler de moi et de ne jamais me relire. C'est-à-dire que donc j'ai ce livre, ce cahier, et je ne l'ai jamais relu parce que je savais que j'aurais effacé, déchiré, corrigé, et ça c'était pas le but. Je voulais que ce soit brut, que ce soit vraiment mes pensées du moment ou bien vraiment retranscrire ce qu'ils étaient en train de vivre là à l'instant T, sans jamais apporter quoi que ce soit comme correction. Et donc ça a quand même eu cet effet d'apaiser énormément cette angoisse un petit peu de disparaître et de ne rien laisser à mes enfants. Et en fait, ça m'a également permis de comprendre que c'était aussi mon angoisse à moi, parce que je n'ai pas de souvenirs d'enfance, j'ai pas eu cette transmission de mes parents, je ne sais pas trop grand-chose concernant mon enfance, des petites histoires, toutes bêtes, à part deux ou trois évidemment que l'on connaît, que tout le monde connaît dans la famille, mais sinon, je n'ai rien d'autre, et ça me manquait, et je voulais pas que mes enfants manquent de ça.
Voilà une belle entreprise, Naïla Chidiac.
Oui, absolument. L'écriture comme trace, cette nécessité de laisser une trace, ou bien chez les écrivains aussi, l'écriture comme témoignage. Donc on a toutes sortes de formes d'écriture, et ce que Madame raconte, c'est ce besoin de trace, mais qui aussi lui ramène peut-être un monde où elle a pu, elle, manquer de souvenirs et qu'elle retrouve peut-être aussi en écrivant.
Éric Libiot.
Non, je voulais demander à Madame, puisque maintenant ses enfants sont grands, si je calcule bien, ils ont plus d'une vingtaine d'années, donc ils sont adultes. Est-ce qu'ils ont lu ce qu'elle a écrit sur eux? Comment ça s'est passé, cette lecture, cette transmission?
Alors, vous faites bien également de me poser cette question, parce que mes enfants ont 27 et 24 ans, et donc récemment, je leur ai dit, c'est pas très, très vieux, c'est il n'y a pas très longtemps, quelques mois, et je leur ai dit, voilà, vous avez un cahier à votre disposition qui parle de vous. Si un jour vous avez envie de le lire, il est là. Il est à votre disposition, et pour l'instant, ils ne l'ont pas encore lu, ils ne m'ont jamais rien demandé.
En tout cas, c'est très beau, Betty, c'est ce cadeau à vos enfants, et merci de nous avoir appelé du Tarn. Et nous accueillons Christiane, également dans le Sud-Ouest, qui nous appelle de Rodez. Bienvenue, Christiane.
Oui, bonjour.
Alors, vous écrivez également des carnets intimes?
Ben, c'est-à-dire que j'ai été en pension assez jeune, et je m'ennuyais beaucoup. Et c'était pour moi une façon de me concentrer sur moi-même, parce que je ne parlais pas beaucoup. Et donc, tout ce que j'avais, tous mes sentiments, je les retranscrivais sur des carnets. Voilà, et puis ça a continué après, parce que c'est chez moi, c'est un besoin. C'est un besoin, j'ai tout le temps envie d'écrire. J'achète plein de cahiers, j'ai plein de cahiers, plein de carnets, plein de blocs qui sont commencés où j'ai écrit 3 pages, 10 pages. Chaque fois que j'ai un problème dans ma vie, si vous voulez, c'est une libération pour moi de pouvoir écrire. Voilà.
Et quels sont les bienfaits que vous avez ressentis après toutes ces années d'écriture, Christiane?
Ben, c'est-à-dire que tout à l'heure vous parliez qu'on se connaissait pas nécessairement, et effectivement, je connais une autre personne que moi quand je lis les textes. Voilà. Et pour en revenir à ce que disait la dame auparavant, je suis en train d'écrire mon histoire pour mes petits-enfants.
Voilà. C'est très beau ce que nous dit Christiane. Je connais une autre personne que moi, Christina Pelédoel.
Ouais, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça, on se découvre en écrivant. On se découvre. Et puis, il y a quelque chose que j'ai entendu dans les deux témoignages à l'instant, c'est la question de la transmission. Non seulement la trace, mais la transmission aussi. Toutes les deux veulent laisser quelque chose à leurs enfants, aux personnes qui les liront. Et je crois que c'est important parce que, en effet, la crainte que nous avons tous, c'est d'être oubliés une fois qu'on sera plus là, d'être oubliés purement et simplement. Et la vie est tellement fugace que finalement, il ne reste pas grand-chose. Donc ça, c'est un moyen, en effet, de s'ancrer dans la vie, dans la trace et dans la transmission.
Merci beaucoup, Christiane, de nous avoir appelés. 10h42. Eh bien, c'est l'heure de retrouver les choses. Réveillez-vous, Éric Libiot. Les choses presque vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Hein. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Éric Libiot.
Alors, avec cette chronique, j'ouvre une parenthèse. C'est la parenthèse de 10h43. Il y a déjà eu plusieurs virgules ce matin, une virgule en radio, c'est un petit son qui vient ponctuer une émission comme une légère coupure dans le déroulé. Il y a aussi eu des chansons, enfin une chanson qui s'apparente à un tiré, couper le discours pour aller ailleurs sans trop s'en éloigner. Il y a eu le point d'interrogation qui termine vos questions, Ali, également les deux points qui dessinent la réponse des invités lancée dans une explication. Les guillemets peuvent signifier une métaphore qui éclaire une réponse peut-être un peu obscure. Les points de suspension, eux, sont là pour imaginer la suite d'un raisonnement qui se perd. Et dans ce cas-là, l'esprit se dit « Mais pourquoi je dis un truc pareil ?» Alors on laisse la phrase en suspension. Et puis voilà, enfin, le point final qui arrive en bout de course vers 10h58, censé fermer la porte du studio après avoir donné les clés pour comprendre le sujet du jour. Écrire, oui, bien sûr, vous l'avez dit, permet de se dire, de se raconter, de se livrer, de se soigner, d'inventer, de se réinventer. Mais écrire n'est rien sans ponctuer. Il est dit qu'un jour, aux temps anciens, un scribe décida de séparer les mots qui jusqu'alors étaient tous attachés les uns aux autres. L'écrit était alors sacré, réservé à une élite et s'opposait à l'oralité. Et voilà que la ponctuation est venue agiter tout ça, donnant à la phrase une respiration, une façon de la lire pour l'entendre. Alors avec le temps, la ponctuation est devenue indispensable, pour ne pas dire obligatoire à l'écriture. Surtout, la ponctuation sert à dessiner un style, une façon de s'adresser au lecteur, une manière de lui faire prendre un train pour aller plus vite ou des godasses trouées pour avancer en trébuchant. Les virgules de Marcel Proust, par exemple, poussent à s'enfoncer dans les méandres du cerveau des héros quand celle de Jean Echenoz défie les lois du voyage. On croit arriver au terminus de la phrase, mais non, il y a encore une gare, et gare à vous si vous l'oubliez. Quant à James Ellroy, il est devenu l'écrivain à point, pour un permis d'écrire, à point et saignant, à point avec AG, tant ses récits claquent et déstabilisent, à point avec un T et des centaines de S, puisque certains de ses livres, White Jazz notamment, sont écrits dans un style découpé en phrases très courtes, parfois un seul mot. Difficile à lire, mais j'imagine qu'Ellroy voulait que les lecteurs soient secoués, et bien c'est gagné. Quand on écrit, il faut s'obliger à ponctuer comme on le sent. On a la ponctuation qu'on mérite et chacun peut préférer un point rapide, une virgule qui s'étire ou le contraire. Mais comprendre la ponctuation est un délice de l'esprit. C'est amusant, c'est enthousiasmant, c'est fascinant, c'est sidérant. Chacun se trouvera et se retrouvera dans une virgule, une parenthèse, des guillemets ou un point. Alors moi, c'est le point virgule. C'est un signe peu usité que j'adore et qu'il faudrait réhabiliter. Comme l'écrit Jacques Drillon dans son traité de la ponctuation française, c'est un merveilleux livre paru chez Gallimard, le point virgule déchaîne les passions, et j'ai appris dans le livre que c'était la bête noire du maréchal Pétain, ce qui me ravit. Car le point virgule relie mais ne sépare pas, c'est un peu comme le cavalier aux échecs, il est souple et précieux, c'est un peu comme moi aussi. Le point virgule impose un rythme mélodieux et décalé, le point virgule parce qu'il refuse le point final par trop abrupt et la virgule par trop molle ouvre le débat. Le point virgule pousse à s'arrêter un temps et à s'interroger, le point virgule se marie parfaitement avec la devise républicaine. Eh bien moi, dimanche, je vote pour lui, un point virgule, c'est tout.
Et je conseille avec vous le traité de la ponctuation du regretté Jacques Drillon, c'est publié chez Gallimard. En un mot, Christina.
Oui, un mot, il y a un point virgule archi célèbre chez Flaubert dans l'éducation sentimentale, il voyagea, point virgule, et on passe 20 ans plus tard.
Dans un instant, on s'intéresse aux bienfaits de l'écriture thérapeutique quand on souffre d'anxiété ou de stress post-traumatique. Ce sera juste après Joy Crooks qui interprète Kingdom à 10h46. Et n'oubliez pas de podcaster les choses presque vues d'Éric Libio.
Across the water, think I got a neighbor that's been feeling blue, but they won't stand down no matter what you say or do. How do you learn to love if you're not taught to? How do you dream of freedoms on a curfew? Paying the price to live in our skin is wearing me thin. In the bank for bread and butter. Don't want to see no doctor when we suffer. Think I got a neighbor that's been feeling blue. But maybe that's a symptom. Fucking with the kingdom that never fought for you.
Joy Crooks, qu'est-ce que c'est bon qui a interprété Kingdom et c'est validé par notre opérateur du son, Kevin Pelot, qui approuve.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse aux bienfaits de l'écriture intime. N'hésitez pas à nous dire pourquoi écrire vous fait du bien, en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Tiens, comme Camille.
Bonjour Ali, merci beaucoup pour votre émission Grand bien vous fasse. J'aime beaucoup cette émission. Vous proposez toujours des émissions de grande qualité sur France Inter, donc c'est très chouette. Alors pour ma part, j'ai vécu une période très difficile psychologiquement en mai-juin 2021, suite à un conflit professionnel dans mon travail. Et j'ai eu l'idée de prendre un petit carnet pour écrire toutes mes pensées, parce que psychologiquement c'était très dur pour moi, j'avais des idées suicidaires, je me sentais très très nulle, et voilà, toutes ces idées qui bourdonnaient dans ma tête sans cesse, j'ai pu les mettre sur papier et ça m'a fait énormément de bien pour m'apaiser. Merci beaucoup, bonne journée.
Votre regard, Naila Chidiac, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, sur ce témoignage de Camille.
Je suis ravie que Camille ait eu ce merveilleux réflexe de prendre un carnet et de se mettre à écrire. Et je trouve que son témoignage est très beau et je l'en remercie. Et effectivement, ça a pu contenir toutes ses angoisses et probablement elle a pris de la distance et elle a relativisé.
Alors j'aimerais qu'on s'intéresse à l'écriture thérapeutique. Hein. Vous avez créé et animé des ateliers à l'hôpital Sainte-Anne à Paris entre 1997 et 2010. Quels sont les avantages de cette écriture thérapeutique? Dans quel domaine elle se révèle efficace?
Alors, à l'hôpital Sainte-Anne, c'était quand même des pathologies assez importantes. Et on pouvait recevoir toute forme de pathologie, sauf les grandes crises d'agitation maniaque dans les bipolarités, parce que ça peut perturber le groupe. Sinon, ça faisait beaucoup de bien à toutes les pathologies. C'était des patients adultes, bien évidemment. Mais
Je peux citer le stress post-traumatique, l'anxiété,
la dépression,
les addictions.
Beaucoup la dépression, les addictions aussi. Mais il faut savoir que quand il y a une pathologie lourde, l'écriture toute seule, voilà, on a besoin quand même d'un service de psychiatrie pour aider. Donc c'était dans ce sens-là que cet atelier était dans une prise en charge pluridisciplinaire, mais les effets ont été excessivement intéressants. D'ailleurs, je suis partie en 2010, mais ça continue et il y a de plus en plus d'ateliers d'écriture thérapeutique dans différents services, dont des services de soins de cancer, de Alzheimer, voilà, c'est un soin.
Alors revenons à l'écriture introspective. Comment se lancer quand on n'arrive pas, quand on est devant la page blanche? Est-ce que vous avez des conseils pour se lancer, Naila Chidiac?
Oui, bien sûr, Ali. En fait, pour vous dire, en 32 ans d'expérience, il y a très 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 peu de cas d'angoisse de la feuille blanche. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de lire ce qu'on a écrit. Mais personne n'a bugué devant la page blanche. Alors, bien sûr, si on leur donne un sujet difficile d'emblée, il y a de quoi avoir peur. Mais si vous dites à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me faire une liste de trois choses dont vous avez envie et trois choses dont vous n'avez pas envie? Voilà. Et à partir de là, beaucoup de choses sont à faire. Ou alors faire un acrostiche de votre prénom. Ah. A-L-I, Ali. Et puis un acrostiche du prénom que vous auriez aimé avoir. Et là, c'est parti en live. Vous allez avoir des séances très riches entre celui qui ne sait pas quel prénom il aimerait avoir ou bien celui qui ne veut pas un autre prénom. Et bam, 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 et ça part de là.
Et la psychologue Margarita Tartakovsky propose une liste, hein, si on n'arrive pas à se lancer. Alors, je cite quelques items. Par exemple, ma façon préférée de passer la journée, c'est... Et puis, vous complétez. Si je pouvais parler à mon adolescence, la seule chose que je dirais, c'est... Faire une liste de 30 choses qui vous font sourire, les mots avec lesquels je voudrais vivre sont, en 10 mots, se décrire. Enfin, voilà, c'est des petits conseils pour se lancer. Et vous, Flavia Mazzolin-Salvi, qu'est-ce que vous conseillez pour se lancer? Il y a des conseils, hein, dans votre livre, hein, « Ma vie en mots ».
Oui, je vais reprendre ce que disait Naila Chidiac. Elle dit dans son livre, la contrainte est la voie royale de l'imaginaire. Et donc, l'imaginaire, la liberté, le contraire de l'autocensure et donc l'autorisation que l'on se donne de se livrer. Et c'est vrai que cette contrainte est dans le livre qu'elle propose. Elle propose 26 auteurs inspirants et 26 exercices étonnants. Moi, j'en ai fait... Je crois que je les ai tous testés, tous faits. Je peux dire que c'est formidablement invitant. Dès lors qu'il y a une proposition qui est une contrainte, eh bien, on ne porte pas le poids de l'interrogation, de par quoi je vais commencer, et si je me trompe quand je me lance. Donc, on est libéré de ça et on y va. Et c'est ce que j'ai aussi fait dans Ma vie en mots, des propositions, des invitations auxquelles on n'a qu'à répondre. Parce que en facilitant le starter, le démarrage, eh bien, il y a cette fameuse voie royale de l'imaginaire et du sensible se déploie beaucoup plus facilement.
Par exemple, dans votre livre, choses qui me font peur, choses qui me font sourire malgré moi, choses qui me donnent des ailes, choses qui me demandent de la patience, et le lecteur complète à sa guise. Vous conseillez également de s'inspirer de Pérec, du cher Pérec d'Éric Libiot, les fameux « Je me souviens ». C'est vrai que c'est absolument extraordinaire d'imiter Georges Pérec, qui lui-même, avait pour référence ces Chonagones que vous citez abondamment dans votre livre. Hein.
Oui, Georges Pérec et son fameux je me souviens, donc qui sont pas des souvenirs personnels, mais des souvenirs de l'époque de son adolescence, effectivement inspiré par ces Chonagones. Roland Barthes aussi, dans Roland Barthes, par Roland Barthes, et inspiré par ces Chonagones, et dans sa liste j'aime pas, nous dit à la fin que ça n'a aucune importance qu'on sache qu'il aime pas la cannelle et les caniches, mais le fait de lister et de dire des choses de soi nous permet de nous reconnaître comme différents de l'autre, et donc de reconnaître l'autre, c'est l'altérité, c'est une invitation à l'altérité, différent de soi. Et c'est toujours cette liste qui libère et qui singularise.
Néla Chidiac.
Oui, alors dans le livre où je vous propose les 26 auteurs suite à un abécédaire, à la lettre B, je vous propose Joe Bernard, qui en fait lui a créé la liste du « Je me souviens ». Et c'est de lui que Pérec s'est inspiré. Et voilà, malheureusement, Joe Bernard est décédé très jeune, et je remercie quelque part Pérec de l'avoir fait connaître, parce que sinon il aurait sombré dans l'oubli.
Et nous accueillons pour terminer Nadia. Bienvenue Nadia.
Bonjour.
Alors, vous écrivez un journal intime depuis 1987, c'est ça?
Oui, j'écrivais un livre, enfin non, mon livre de ma début de ma vie, puisque j'étais une jeune femme, puisque j'ai 55 ans maintenant. Et puis, je racontais toute ma vie, puisque j'étais seule à Paris, et puis j'étais une petite Normande qui montait à Paris, donc il fallait que j'écrive un petit peu pour pouvoir me sauver de cette vie parisienne que je ne connaissais pas du tout et où j'apprenais à vivre. Et puis, il y a 6 ans, j'ai découvert que mon mari avait lu mon journal. Aïe. Oh, il n'y avait rien de qui aurait pu gêner notre vie de couple, mais je me suis sentie, peut-être le mot va être violent, mais je me suis sentie violée. Parce que c'était ma vie, je l'avais construite, et j'avoue que je n'arrive plus, j'ai essayé de me reprendre des cahiers, de réécrire, et je n'arrive pas à ouvrir un mot, à ouvrir ce que je ressens. Et c'est vrai que je vous avoue qu'en ce moment, je ne suis pas en grande forme, et je sais que ça me ferait énormément de bien. Je n'arrive plus à poser des mots sur mon mal-être, et je pense que d'autres personnes sont peut-être comme moi, et si on peut me donner quelques clés pour réussir à apporter un peu plus de lumière aux mots que je n'arrive plus à poser, ça me ferait beaucoup de plaisir.
Néla Chidiac.
Oui, merci pour ce témoignage. Vous pouvez, si vous voulez, au début, mettez-vous juste à recopier des poèmes ou recopier des mots, parce que le mot en lui-même est très évocateur. Hermann Hesse dit un seul mot et vous partez dans un imaginaire merveilleux. Donc, ou alors, écrivez des choses imaginaires, comme ça, vous vous sentirez moins intrus. Voilà, il n'y aura pas d'intrusion dans votre intimité, mais continuez à écrire, restez dans l'acte d'écrire, et petit à petit, vous reprendrez confiance. Sinon, il y en a aussi qui écrivent des lettres et puis après qui les déchirent. Mais au moins, vous écrivez. N'arrêtez pas d'écrire. C'est tout ce que je peux vous dire.
Merci
vraiment.
Nadia pour votre témoignage très émouvant. Merci beaucoup Néla Chidiac. Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, c'est publié chez Odile Jacob. Merci Flavia Mazelin, Salvi, Ma vie en mots, c'est publié au Courrier du Livre. Merci Chrysilla Pelédouel. On se retrouve vendredi dans cette émission, et merci au Tic et Tac, Marie-Laure Sunshine et Éric Libiot. Demain, comment accompagner l'anxiété et la colère de ses enfants et de ses adolescents.